Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 9 avril 2014. En direct de Washington, Idrissa Seroudia et Anne Albertson. Anne, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
À nos sommaires de cette édition.
L'OMS alarmée par la propagation de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Plus de 110 morts dans la région depuis février.
Samantha Power, représentante permanente des États-Unis à l'ONU, termine par la Centrafrique sa visite dans la région où elle était venue assister à la commémoration du 20e anniversaire du génocide au Rwanda.
À Bujumbura, message personnel de Barack Obama, Madame Power a demandé hier à Pierre Nkurunziza de respecter la constitution et les libertés civiles et politiques au Burundi.
John Kerry accuse Moscou d'attiser les velléités séparatistes dans l'est de l'Ukraine pour pouvoir justifier une intervention militaire.
Et le secrétaire d'État américain critique les Palestiniens, mais aussi Israël, pour de récentes décisions qui ne contribuent pas à la poursuite du dialogue.
Négociateurs iraniens et représentants des grandes puissances ont repris hier à Vienne leur discussion sur le programme nucléaire de Téhéran. Et nous terminerons cette édition avec la musique de Roger Montou et les sports. Pour l'instant, le journal. L'Organisation mondiale de la santé dit que l'épidémie de fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest est l'un des plus grands défis qu'elle ait jamais eu à relever. Pourtant, il y a quelques semaines, l'OMS avait mis un bémol aux déclarations alarmistes de Médecins sans frontières sur l'épidémie. Darina Naidoo.
Keji Fukuda, directeur général adjoint de l'OMS, a averti que cela pourrait prendre 4 mois de plus pour contenir l'épidémie de fièvre hémorragique qui a déjà fait 110 morts. Selon lui, c'est un défi parce que la propagation est sur une vaste région. En Guinée, il a été recensé 157 cas suspects ou confirmés, 21 cas au Libéria et les 3 cas qui ont été signalés au Mali se sont révélés négatifs d'après le gouvernement de Bamako. Le virus Ebola s'est d'abord révélé en Guinée forestière en février dernier avec des cas signalés à Conakry et Cancan, mais aussi au Libéria voisin. Médecins sans frontières avait parlé d'une épidémie sans précédent, mais à l'époque, Grégory Hartel, le porte-parole de l'OMS, avait relativisé ses propos. Et pour Conakry, tout ce tapage médiatique nuit à l'image de la Guinée, et pour parer au pire, le Sénégal a fermé sa frontière terrestre avec ce pays.
La représentante du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Mary Robinson, s'est rendue hier dans la province du Sud Kivu, où elle a eu plusieurs réunions avec les autorités et la société civile. L'essentiel de ces réunions a porté sur la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et la lecture de cet accord par la société civile. De Bukavu, reportage de Jolie Kamuntu.
Après une réunion avec le gouvernement provincial du Sud Kivu, Mary Robinson s'est entretenue avec la société civile du Sud Kivu et notamment de l'implication active de la société civile dans les mécanismes de l'accord cadre d'Addis Abeba. À l'issue de la réunion, nous avons approché quelques acteurs de la société civile.
Nous avons parlé de mauvaise gestion des questions identitaires comme l'une des causes des conflits en RDC.
Nous avons parlé de la lutte contre l'impunité où nous avons rappelé qu'il y avait un rapport mapping des Nations Unies sur les crimes commis entre 1993 jusqu'en 2003, que les recommandations n'avaient pas encore été en application.
Mary Robinson a noté qu'aujourd'hui, il est impossible de réussir à asseoir l'accord cadre d'Addis Abeba et les autres accords signés par les chefs d'État sans impliquer la société civile. Bukavu, Jolie Kamuntu, la voix de l'Amérique.
Les États-Unis, par la voix de leur représentante permanente à l'ONU, Samantha Power, ont directement exprimé au président Pierre Nkurunziza leurs préoccupations quant à la situation actuelle au Burundi, se disant préoccupés par la résurgence des signes de violence à motivation politique et le rétrécissement de l'espace démocratique au Burundi. Madame Power a appelé M. Nkurunziza à respecter la Constitution et les libertés civiles et politiques. Samantha Power était à Bujumbura à la tête d'une délégation de haut niveau comprenant entre autres la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield.
en faisant part d'un des deux messages du président Obama à son homologue burundais, nous dit notre correspondant sur place, Mme Power a reconnu les avancées faites dans le pays depuis la fin de la guerre civile, tout en mettant en garde contre les risques de retour à la violence de masse. Notre deuxième message, a-t-elle poursuivi, est lié aux préoccupations sur les restrictions de l'espace politique ici dans ce pays, aux préoccupations sur l'opposition et les médias. Les journalistes doivent continuer à s'exprimer librement, aux préoccupations sur le refus de la société civile de se réunir ou même de manifester. Nous avons surtout insisté sur le respect des mandats présidentiels. Le président a un important héritage que lui et le peuple burundais ont essayé de bâtir depuis 2005 jusqu'à nos jours. Nous croyons que l'héritage qu'il peut laisser est de respecter la Constitution comme quelqu'un qui a contribué à l'instauration de la démocratie moderne au Burundi. Ainsi, nous l'exhortons à respecter la Constitution, l'état de droit et les droits de l'homme, a déclaré Samantha.
Elle faisait allusion ici, nous précise notre correspondant Eric Manirakiza, au troisième mandat que le président Nkurunziza voudrait briguer contrairement à la constitution burundaise. Madame Power, en visite dans trois pays de la région du 6 au 10 avril, était auparavant au Rwanda où elle a participé aux cérémonies marquant le 20e anniversaire du début du génocide. Sa dernière étape, selon son bureau à New York, la République centrafricaine, marquera la deuxième visite qu'elle effectue dans ce pays où elle s'entretient avec les membres du gouvernement de transition, dont la présidente Samba Panza et les chefs de la MISCA, la Force africaine de maintien de la paix, pour appuyer les efforts actuels et préparer le terrain pour une opération officielle de maintien de la paix des Nations Unies.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement ukrainien s'est évertué hier à affirmer son autorité et maintenir son contrôle sur des villes clés de l'Est pro-russe, alors que s'accentuent les pressions pour aplanir les divergences ethniques et politiques qui menacent de diviser encore plus l'Ukraine.
Les autorités ont dit que des coups de feu ont été tirés et qu'au moins 60 protestataires pro-Moscou ont été arrêtés à Kharkiv, alors que dans le sud, des manifestants pro-russes étaient retranchés pour la troisième journée consécutive dans une installation gouvernementale qu'ils ont saisie dimanche à Donetsk. Ailleurs, et selon des responsables ukrainiens de la sécurité, des protestataires occupant un bâtiment à Luhansk et qui veulent, comme la Crimée, faire sécession et se joindre à la Russie, ont miné les lieux et retiennent une soixantaine de personnes en otage.
Ici à Washington, le secrétaire d'État américain John Kerry a accusé les agents et forces spéciales russes de fomenter les troubles séparatistes dans l'est de l'Ukraine, disant que ces actions de Moscou ne visent qu'à trouver un prétexte pour intervenir militairement, comme on vient de le voir en Crimée. Nous reviendrons plus longuement sur les déclarations de M. Kerry dans la seconde partie de cette édition.
Et concernant un autre dossier, l'impasse dans les négociations de paix au Proche-Orient, M. Kerry n'a pas caché son impatience hier devant le Sénat américain. Le secrétaire d'État a déploré les récentes décisions qui ne contribuent pas à la poursuite du dialogue, Nicolas Pineau.
Oui, devant la Commission des Affaires étrangères, M. Kerry a d'abord mis en cause Israël, qui a annoncé la semaine dernière avoir lancé un appel d'offres pour la construction de près de 700 nouveaux logements à Jérusalem-Est. Autre signe négatif, selon lui, le refus de libérer le dernier contingent de prisonniers palestiniens. Tout ceci entrave le processus de paix, selon M. Kerry. Les Palestiniens n'ont pas été épargnés par les critiques, mais ce sont les reproches à l'égard d'Israël, alliés fidèles de Washington dans la région, qui ont eu de l'écho. Depuis juillet 2013, les Américains ont tenté de relancer le processus de paix, mais Israéliens et Palestiniens ne s'entendent toujours pas. Ce dialogue devait théoriquement durer 9 mois, mais le chemin de la paix semble plus sinueux.
Début hier à Pékin du procès de 2 militants anticorruption accusés de troubles à l'ordre public. À cette occasion, les autorités ont déployé un imposant dispositif de sécurité. Le point avec Georges Léonard Sagnot.
Ding Jiaxi et Liu Wei sont membres du mouvement Citoyen Nouveau, une campagne pour encourager les responsables chinois à publier leur patrimoine. Le Parti communiste chinois mène sa propre campagne contre la corruption, mais voit de mauvais œil cette initiative à la base. En janvier, le fondateur de Citoyens Nouveaux, Xu Yong, a été condamné à 4 ans de prison ferme. Ding et Li risquent jusqu'à 5 ans. Pour Maître Sui Muqing, avocat, ses deux clients n'ont commis aucun crime. Ils n'ont fait aucun mal à la société. En plus, leur comportement devrait être loué et encouragé. C'est extrêmement facile à juger. Cela ne demande pas une grande expertise juridique. Ils sont clairement innocents. Ils ne sont pas seulement innocents, il n'y a même pas une trace d'illégalité dans leurs actes. Le dossier est très sensible car les autorités chinoises ont interdit à un groupe de diplomates et journalistes étrangers l'accès au procès.
Quelque 187 millions d'Indonésiens se rendent aux urnes aujourd'hui pour des élections législatives qui auront un grand impact sur la présidentielle de juillet prochain. Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson. Washington, la voix de l'Amérique. L'homosexualité est toujours illégale et criminalisée dans 38 pays africains. Le Nigeria et l'Ouganda ont récemment adopté des lois qui durcissent la répression des actes homosexuels. Pas étonnant donc qu'un nombre de gays, lesbiennes et transsexuels africains tentent de chercher l'asile politique ici aux États-Unis. Pour la communauté homosexuelle ougandaise, il s'agit même d'une question de vie ou de mort. Jacques Aristide.
Nikki Mawanda a récemment fui son pays.
Je peux vous dire que la situation est terrible en Ouganda. Les gens ne savent pas ce qui se passe là-bas. Je suis inquiet pour ma communauté. Et je crains aussi pour moi car je ne sais pas ce qui pourrait m'arriver si je devais rentrer au pays.
Nikki fait partie de quelques 60 Ougandais qui ont fait depuis le début de l'année la demande d'asile politique aux États-Unis.
They staged a big prayer.
Dans mon pays, les gens avaient organisé une grande prière à côté de la maison de ma mère pour me demander de quitter le village où, selon eux, j'apportais l'homosexualité. Je ne voulais pas abandonner mon village, mais cette fois-ci, c'était trop. J'avais tellement peur, j'avais donc décidé de partir.
Ainsi, les gays, lesbiennes et transsexuels africains font appel à l'aide des gens comme Jocelyn Dyer, une avocate au sein de l'ONG Human Rights First.
Nous sommes très préoccupés par ces lois répressives, car à cause d'elles, la situation va de mal en pis.
En effet, l'homosexualité est passible de la peine de mort dans 4 pays africains. En Ouganda, c'est la prison à vie. Stephen Taylor, professeur de politique africaine à l'American University.
La prison à vie peut être pire que la peine de mort, compte tenu des conditions de détention dans certaines prisons.
Menaces de mort et brutalité policière, c'est ce qui a poussé le transsexuel ougandais Victor Mukasa de quitter son pays pour s'installer aux États-Unis il y a moins d'un an. Il y a eu effectivement des victimes, comme l'Ougandais David Keto, défenseur des droits des homosexuels, assassiné en 2011. À ses funérailles, une foule anti-gay avait même tenté de semer la terreur.
Et maintenant, place à la rubrique des 100 citoyens journalistes en RDC. Je vous rappelle que leurs messages, photos et vidéos sont sur Facebook et sur lavoixdelamérique.com.
Lubumbashi Narval Mabila. Plus de 10 000 creuseurs exploitent dans la carrière de Lupoto appartenant à la Générale des Carrières des Mines. Ils ont été sommés de quitter la concession de l'Agicamine par les autorités. Malgré cette décision, les creuseurs continuent à exploiter la carrière. Ils se défendent. C'est par manque de création d'emplois par le gouvernement qui se trouve dans la carrière. Une grande partie de l'Ouchoua apprécie la présence des creuseurs dans la carrière de Lupoto. Selon eux, cela a diminué le chômage, la criminalité. D'autres pensent que les contrats de la Générale des Carrières et des Mines profitent beaucoup plus aux autorités du gouvernement central et aux membres du comité de gestion qui touchent les pots de vin.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
L'intégration tant désirée en Afrique est-elle en marche dans la partie ouest du continent? Tout porte à le croire, selon notre correspondant Cotonou, surtout après la boucle ferroviaire qui entend relier le Bénin et le Togo d'une part, et d'autre part, le Bénin, le Niger, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Cette boucle a été lancée hier à Cotonou en présence des présidents nigériens et béninois et des représentants des autres pays concernés. Longue de 2728 km, cette boucle ferroviaire poursuit l'objectif de rapprocher les peuples et favoriser de fructueux échanges tant sur le plan économique, socioculturel que politique, nous dit de Cotonou Peggy Ludovic Dagba.
Après Niamey, Cotonou a été ce mardi 8 avril 2014 la capitale de l'intégration ouest-africaine, avec le lancement officiel de la boucle ferroviaire Cotonou-Lomé d'une part et Cotonou-Abidjan en passant par Niamey et Ouagadougou d'autre part. Un rêve caressé de longue date, à en croire le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, pour qui, avec la réalisation de ce projet, c'est l'intégration des peuples de l'Afrique de l'Ouest qui est en marche. Nous écoutons ici Mahamadou Issoufou lors de la cérémonie de lancement.
C'est un événement historique que de réaliser ce rêve de relier Cotonou à Abidjan par le train en passant par Niamey et Ouagadougou, sans oublier que notre projet est de faire la liaison également avec Lomé. Donc nous avançons vers l'intégration de nos économies, vers l'intégration de nos pays. Le train en constitue un symbole fort.
L'objectif de ce nouvel axe de chemin de fer est de développer les relations sociales, mais aussi faciliter et accélérer les relations économiques entre tous les pays partenaires. Dans 24 mois donc, la boucle ferroviaire viendra combler un grand vide, selon le président béninois Thomas Boniyayi, en plus de faciliter la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace UEMOA. Ce sera un axe sans lequel le développement ne sera pas une réalité en Afrique de l'Ouest.
L'application de ce marché commun que nous sommes en train de construire au sein de la CEDEAO, en passant par l'UEMOA. De ce point de vue, arrivé là-bas, nous allons le certifier, c'est un bel ouvrage qui a été construit. Et là, ça va être un grand jour aussi parce que nous allons prendre des décisions pour que les opérateurs économiques puissent s'en réjouir dans la liberté. Et que ce soit par la route, que ce soit par le chemin de fer, eh bien que ce soit des axes de développement et non des axes qui entravent la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, des services, etc. Et nous parlerons de cela dans 50 ans, dans 100 ans, sans ce taxe, point de développement.
Après l'intégration économique, l'intégration énergétique est la prochaine équation à résoudre, qui concentrera les efforts des West Africains afin de résoudre une fois pour toutes la monstrueuse crise énergétique qui secoue les pays de l'Afrique de l'Ouest, dira le président nigérien avant de remercier son hôte pour l'accueil chaleureux à lui réservé. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Bénin sur Fraternité FM à Parakou.
Au Togo, dans un souci environnemental, une association du pays se propose de recycler les déchets électriques et électroniques. C'est un projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial et qui consiste à collecter et à recycler ces types de déchets. Reportage de notre correspondante Alobé Kayilosan.
Le Togo produit près d'un million de tonnes de déchets par an et parmi ces déchets figurent ceux dits électroniques. Retrouver des plaquettes d'ordinateurs, des écrans cathodiques ou encore des squelettes de vieux postes radio sur des dépotoirs allumés n'a rien d'étonnant, puisque c'est souvent leur point de chute, nous dit Rigobert Lenguema, réparateur d'appareils électroniques.
C'est un grand, grand problème. C'est vrai que, on se débarrasse autant qu'on peut. Ça se jette partout, là. Vous remarquez un peu sur les dépotoirs, parfois on les jette partout. Je ne sais pas comment faire pour gérer tout ça, là. Pouvoir le garder où on n'a pas de magasin. Donc, on ne peut pas stocker tout le temps.
Ces appareils en fin de vie jetés dans la nature polluent l'environnement. L'association Action sociale pour le développement intégral, ASDI, veut protéger l'environnement, mais aussi la santé humaine, en initiant un projet de recyclage. Koku Muntu Chamsi, directeur exécutif d'ASDI.
Pour les collecteurs, nous les recyclons parce que c'est des déchets qui contiennent des substances hautement dangereuses pour l'environnement. Ces déchets, une fois dans l'environnement, provoquent des catastrophes. Ça provoque même des fois de la stérilité du sol. Nous prenons tous les déchets, nous les démantelons. Et la partie hautement dangereuse dont nous parlons, et toutes les parties qui ne peuvent pas être recyclées ici et qui n'ont pas de valeur, seront convoyées chez notre partenaire, une ONG belge, qui les recyclera dans ses installations.
Les appareils électroniques hors d'usage sont dangereux et nuisibles à la santé. C'est pourquoi l'un des volets de ce projet d'ASDI est la sensibilisation. Emmanuel Yao Ezan, coordonnateur national du projet.
Ce projet consiste à sensibiliser notre population aux méfaits des déchets que nous stockons chez nous. Il y a des gens qui ont leur télé depuis 90, qui l'ont toujours sous leur lit. Le danger, c'est qu'il peut y avoir fuite de gaz. Quand par exemple vous gardez l'écran cathodique chez vous, et l'écran se casse sans que vous le sachiez. Il y a fuite de gaz, vous le respirez sans le savoir. Un jour, vous allez vous en rendre compte et vous en débarrasser. Mais c'est tard que les problèmes vont commencer. Alors, on parlera du cancer, on parlera de la tension, les retards de croissance, des troubles comportementaux, voilà, des dangers que nous courons en gardant ces choses chez nous.
Pour arriver au résultat du projet, un partenariat est établi entre l'association Action sociale pour le développement intégral et les électroniciens. Nous retrouvons le coordonnateur du projet, Emmanuel Yao Ezan.
Dès que l'entreprise ou le réparateur sait que ça, c'est déchet pour lui, il nous appelle et nous, on vient chercher. C'est un partenariat gagnant-gagnant, d'autant plus que nous ne venons pas chercher les déchets gratuitement, mais que nous négocions avec les réparateurs parce que nous nous sommes rendus compte que les gens attachent tellement de valeur à leurs choses que quand vous allez pour leur expliquer, il faut les encourager à continuer à nous faire confiance pour nous céder les déchets. Donc le réparateur, nous lui donnons un peu d'argent quand même pour l'encourager. Donc ça, déjà, ça rassure.
C'est environ 41 000 dollars américains que le Fonds pour l'environnement mondial a mis à la disposition de l'association Action sociale pour le développement intégral pour débarrasser Lomé des déchets électroniques sur les deux prochaines années. Kailson Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, 20 ans après le génocide au Rwanda, les leçons ont-elles été apprises? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Je vous le disais dans la première partie de cette édition, le secrétaire d'État John Kerry accuse la Russie d'attiser les tendances séparatistes dans l'est de l'Ukraine pour justifier son intervention militaire. Moscou s'expose à des sanctions plus strictes dans les domaines bancaires, miniers et énergétiques s'il n'arrête pas de miner l'Ukraine, a averti le chef de la diplomatie américaine. Nous y revenons plus en détail avec Michel Joseph.
John Kerry a fait savoir que le président Barack Obama prépare une série de mesures plus fortes au cas où la Russie ne cesse pas son implication claire et indiscutable dans la déstabilisation de l'est de l'Ukraine.
So Russia has a choice. To work with the international community to help build an independent Ukraine.
Ainsi donc, la Russie a un choix. Œuvrer avec la communauté internationale pour aider à bâtir une Ukraine indépendante qui soit un pont entre l'Est et l'Ouest et qui répondrait aux espoirs et attentes de tous les Ukrainiens, ou alors faire face à un grand isolement à cause de son refus de voir que le monde n'est pas un jeu sans mise. Des séparatistes pro-russes dans le sud-est de l'Ukraine réclament des référendums du même genre que celui qui a permis le mois dernier le rattachement de la Crimée à la Russie. De l'avis du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ces régions dans le sud-est ukrainien devront être incluses dans les pourparlers la semaine prochaine avec les États-Unis, l'Union européenne et le gouvernement ukrainien. Ce n'est pas une mince affaire que la Russie ait accepté de prendre part à ces discussions, a expliqué le secrétaire d'État Kerry aux législateurs américains. Toutefois, Moscou doit avant tout désavouer les actions séparatistes en Ukraine, retirer ses troupes le long de la frontière et démontrer qu'il fera tout en vue d'une désescalade, a souligné le chef de la diplomatie américaine. Pas tellement convaincu, le sénateur républicain Bob Corker estime que l'action de l'administration Obama vis-à-vis des Russes est contradictoire.
We castigate them on one side. On the other hand, we're exchanging paper with them.
Nous les fustigeons d'un côté et de l'autre, nous échangeons des documents avec eux. Je suis confus quant à ce que notre politique est réellement. Réponse du secrétaire d'État Kerry, les États-Unis préfèrent une solution négociée, mais n'hésiteront pas à utiliser ce qu'il a appelé des outils du 21e siècle pour tenir la Russie responsable d'un comportement du 19e siècle. Pour le patron de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, une intervention de Moscou en Ukraine serait une erreur historique et va isoler davantage la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a, de son côté, appelé les autorités intérimaires ukrainiennes à cesser ce qu'il qualifie de préparatifs militaires qui pourraient mener à une guerre civile dans le sud-est de l'Ukraine. Un concert de mise en garde qui montre que la crise ukrainienne est loin d'être résolue.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Idrissa.
Tout d'abord, les quarts de finale retour de la Ligue des champions en Europe.
Avec 3 buts d'avance, le Real se déplaçait au Borussia Dortmund et les Allemands ont presque refait tout leur retard en s'imposant 2-0 grâce à un doublé de Marco Reus. Insuffisant cependant, et ce sont les Espagnols qui se qualifient. Grosse désillusion pour le Paris Saint-Germain à Stamford Bridge. Dembaba, le Sénégalais, auteur du deuxième but qui permet aux Blues de Chelsea d'accéder aux demi-finales en l'emportant 2-0 grâce au but marqué à l'aller à Paris. Autre match ce mercredi, les autres quarts de finale, l'Atlético Madrid reçoit le FC Barcelone après un match nul un partout à l'aller. Même score avant le match en Allemagne entre le Bayern de Munich et Manchester United.
Et puis Hervé Renard, très annoncé du côté du Maroc après la fin du championnat de France.
Invité de Sporama lundi, l'ancien sélectionneur de la Zambie, vainqueur de la CAN 2012, est revenu sur son pari avec le FC Sochaux et ses envies pour la saison prochaine. L'Europe tient la corde, mais l'Afrique n'est jamais bien loin en raison de la CAN 2015 au Maroc. On écoute Hervé Renard.
Peut-être que je serai en Ligue 1. Mon premier souhait, c'est de rester en Europe pour être à la tête d'une équipe qui soit plus compétitive que le FC Sochaux cette saison. Il y a quelques petits contacts qui avancent petit à petit, donc on verra. Et puis si jamais les choses ne m'intéressent pas, eh ben, je retournerai, oui, comme vous l'avez deviné, en Afrique. Et je serai peut-être soit déjà qualifié, vous voyez ce que je veux dire. Ou alors je prendrai une équipe qui entamera ses qualifications en septembre. Maintenant, j'ai besoin de challenge qui soit hyper intéressant. Je vais vous dire, puisque vous m'appelez des USA, c'est dans un petit coin de ma tête aussi. Je pense que c'est un pays en devenir au niveau du football et pourquoi pas un jour mettre un pied sur ce continent. Si on fait appel à moi, j'en serai ravi en tout cas.
Hervé Renard dans une interview à retrouver sur le www.lavoixdelamerique.com. Après la finale du championnat universitaire, la nuit dernière, Idrissa, je vous laisse donner les résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Détroit 102, Atlanta 95, San Antonio 91, Minnesota 110, Brooklyn Nets 88, Miami 87, Dallas 95, Utah 83, Oklahoma City 107, Sacramento 92. À présent, Roger Muntou et sa musique. Bonjour Roger.
Bonjour Idrissa. Mauro Ramos de Florencio, connu sous le nom de Ramito, était un célèbre chanteur portoricain. Sa chanson « Que bonita bandera » a tellement eu du succès que plusieurs artistes en ont fait des remixes. Le groupe Révolution nous chante « Que bonita bandera ».
Que bonita bandera, 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 que bonita bandera,
que bonita bandera, que bonita bandera, que bonita bandera, la bandera puertorriqueña.
Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué
Ramito chantait déjà à l'âge de 13 ans pour gagner de l'argent.
Oui, ses parents étaient très pauvres et le petit Ramito s'est senti obligé de subvenir aux besoins de la famille. Il est devenu très populaire vers les années 60. Il était l'icône de la musique portoricaine.
Merci Roger.
De rien Idrissa, bonne journée.
Roger Muntu que vous suivez dans RM Show chaque jour à 20h temps universel. Lola,